Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, ce sont des enfants qui arrivent seuls, sans famille, en Europe, après un long voyage, isolés, vulnérables, mais trop souvent abandonnés à leur sort. L'accueil de ces migrants mineurs non accompagnés, sous le feu des critiques, à Genève, en Suisse. D'après les chiffres officiels, après les arrivées en nombre de 2015, les demandes d'asile de ces enfants isolés n'a pas cessé de baisser. En Suisse, ils étaient 2736 en 2015, 401 l'an dernier. Dans une très grande majorité, il s'agit de garçons, un peu plus de la moitié à entre 16 et 17 ans, et ils viennent d'abord d'Afghanistan, d'Érythrée et de Somalie. Mais si Berne a annoncé une meilleure prise en charge de ses enfants dès l'année prochaine, avec notamment des éducateurs spécialisés, un collectif d'associations dénonce la prise en charge de ces jeunes qui ne demandent pas toujours l'asile. Manque de moyens et de places disponibles, disent les autorités. Manque de volonté politique, répondent les militants. Les détails à Genève de Jérémy Lanche.
Ni la pluie, ni la nuit tombante n'ont découragé les militants. En ce mois d'octobre, ils sont à peu près 150 à s'être donné rendez-vous devant le foyer de l'Étoile, en périphérie de Genève. C'est là que sont logés plusieurs dizaines de requérants d'asile et de mineurs non accompagnés dans des préfabriqués de chantier. Des conditions d'accueil déplorables, selon les manifestants.
On est dans une zone industrielle en fait là, on n'est pas au centre-ville de Genève. C'est difficile d'accès, c'est mal vu d'habiter ici, c'est dénigrant en fait pour des jeunes qui sont censés être accueillis. On est dans des locaux préfabriqués, en tôle, les salles communes sont toujours dégueulasses, il y a peu de vie sociale, ils sont extrêmement contrôlés, à partir de 10h ils peuvent plus se voir, c'est choquant pour tout le monde en fait.
Je me sens très concernée par le sort de ces mineurs non accompagnés, qu'ils soient requérants d'asile ou pas. J'estime qu'on n'a pas à les parquer dans des lieux pareils. La Suisse a tendance à voir les jeunes comme des migrants avant de voir que ce sont des enfants.
Nous nous élevons contre la politique scandaleuse de l'exécutif qui refuse d'étendre les droits des enfants à tous les jeunes majeurs du canton non accompagnés.
Construit en urgence après 2015 pour répondre aux besoins d'hébergement des migrants dans le canton, le foyer de l'Étoile est au cœur de toutes les critiques. Le bâtiment n'est pas fait pour accueillir des requérants d'asile et encore moins des enfants, estime cette autre manifestante.
C'est un foyer, vous voyez, il est entouré de barrières, donc un foyer normalement pour jeunes. C'est un foyer avec 12, 13 enfants, avec un encadrement plutôt familial et agréable. Et là, en fait, ils doivent entrer, sortir, montrer leurs papiers sans arrêt. Il y a des Securitas qui s'occupent de les filtrer à l'entrée.
Les Securitas, c'est des agents de sécurité.
Voilà, qui sont là et puis qui abusent un peu peut-être de leur pouvoir. Et il y a eu un suicide qui a fait que tout d'un coup, tout a explosé finalement, puis que les gens en ont marre d'écrire des lettres, d'alerter le Conseil d'État, d'alerter tout le monde. Et puis que rien ne bouge.
Le suicide dont elle parle, c'est celui d'Ali. Ce jeune Afghan de 18 ans s'est donné la mort au début de l'année au foyer de l'Étoile. Le drame a jeté une lumière crue sur les conditions d'accueil de certains mineurs et sur la difficulté de leur passage à l'âge adulte. Car ici, à 18 ans, l'accompagnement s'arrête presque brutalement. Alors arrivés en Suisse, les demandeurs d'asile, mineurs ou majeurs, doivent déposer leur demande dans l'un des 6 centres fédéraux du pays. Les autorités ont alors 140 jours pour rendre une décision. Passé ce délai, les demandeurs sont alors répartis dans l'un des 26 cantons de Suisse. Et là, c'est un peu la loterie. Dans certains cas, les mineurs ont droit à des hébergements spécifiques avec un encadrement et un accès facilité à la scolarité et à la formation. Dans d'autres, ils sont traités au même titre que les adultes. Du côté des associations, on dénonce surtout la fâcheuse tendance qu'ont les autorités à nier la minorité de certains jeunes. Une manière détournée de faciliter leur renvoi pour Lucine Miseret, assistante sociale au centre social protestant.
Il faut savoir qu'un jeune qui a été enregistré majeur, c'est extrêmement difficile, même s'il arrive à faire venir des documents d'identité du pays par la suite, de prouver sa minorité. Il y a énormément de jeunes qui sont nés le 1er janvier 97. Pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés fin 2015, courant 2015, et puis sans documents d'identité, et ils ont été identifiés comme majeurs. Et tout ce qui est valable pour les mineurs n'est pas valable pour les jeunes majeurs, même s'ils ont 18 ans et un jour. Donc en général, ils restent majeurs avec les conséquences que ça a sur l'accompagnement et l'accès à la formation, l'accès au français, l'accès à l'intégration.
Mais pour Lucine Miseret, l'angle mort de la politique d'accueil des étrangers concerne tous ces mineurs qui ne demandent pas l'asile. Pour la plupart, ils viennent des pays du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest et d'Europe de l'Est. Ils sont donc peu susceptibles d'obtenir le fameux sésame, alors que ceux qui demandent l'asile ont droit à une place en foyer et à l'accès à l'éducation. Ceux qu'on appelle les MNA sont parfois logés dans des hôtels et ne vont pas à l'école, ce qui scandalise Dario Lopreno, membre du collectif des Assises mineurs et jeunes majeurs non accompagnés.
On est dans un des quelques pays les plus riches de la planète et dans la ville la plus riche de ce pays. On accueille à Genève la fortune du monde et on n'accueille pas cette minuscule petite misère du monde pour laquelle on a tous les moyens de lui donner en bien-être et on le fait en parfaite illégalité. La constitution genevoise oblige à scolariser tous les jeunes de moins de 18 ans. Tous ceux qui errent dans les rues ne sont pas scolarisés et ces gens vivent une vraie misère et c'est dégueulasse.
Une quarantaine de jeunes seulement ont été identifiés par les autorités genevoises. Les associations estiment qu'ils seraient en réalité près de 200.
C'est difficile d'en identifier le nombre. Les autorités, pendant longtemps, ont fait la sourde oreille, c'est-à-dire qu'ils les ont totalement ignorés. Donc, c'est des mineurs sans droit qui étaient sur le territoire, sans lieu pour être hébergés, sans assistance, sans prise en compte de leur réalité et qui étaient la proie idéale de toutes sortes de trafics et de traite d'êtres humains, voire de prostitution également.
Du côté des autorités cantonales, on dit être conscient du problème posé par la prise en charge des mineurs non accompagnés, peu importe leur statut. Elles ont promis de nouveaux centres d'accueil spécialement dédiés, plus petits, pour une dizaine de personnes seulement. Certains projets sont aujourd'hui bloqués par des recours de riverains. Un faux problème pour les collectifs de défense de ces jeunes. Eux estiment que le traitement de tous ces mineurs viole la Convention des droits de l'enfant, pourtant ratifiée par la Suisse.
L'Italie est l'une des portes d'entrée vers l'Europe pour les migrants qui traversent la Méditerranée dans des conditions éprouvantes, très souvent. Depuis le début de l'année, plus de 1000 personnes ont perdu la vie en mer, parmi les rescapés des naufrages, des enfants, des bébés parfois, qui arrivent alors orphelins sur le rivage italien. Certains de ces enfants ont trouvé une nouvelle famille, mais l'adoption n'est pas simple dans un pays où la dérive raciste préoccupe de plus en plus de citoyens. Des mères adoptives s'en sont rendues compte. Elles ont monté une association, Mamme per la Pelle, et se battent pour préserver leurs enfants d'une haine croissante. C'est un reportage de Franceline Beretti.
Sylvia a adopté sa fille en 2016. Naïla a alors 8 mois. Elle arrive à Lampedusa, en Sicile, après une traversée de la Méditerranée tragique. Les deux tiers des passagers du bateau sont morts, sa mère aussi. La justice italienne cherche d'autres parents, n'en trouve pas. Alors cette toute petite Nigériane est adoptée par Sylvia et son mari. C'était il y a 3 ans seulement, mais c'était une autre époque, explique la jeune mère.
Quand ma fille est arrivée, je n'aurais jamais pensé devoir un jour lutter contre le racisme ou la discrimination. Je pensais que c'était des phénomènes totalement dépassés. Et pourtant, on se retrouve à se battre pour des choses que l'on pensait acquises. Je suis préoccupée pour le futur de ma fille, quand elle sera un peu plus grande et qu'elle sera assez mature pour comprendre certains regards, certaines plaisanteries.
Naïla n'a jamais été agressée, mais Sylvia sait qu'un jour, les regards sur sa petite fille vont changer. Si elle est préservée pour l'instant, c'est qu'elle n'a que 3 ans. Les autres mères de l'association Mamme per la Pelle l'ont constaté.
On s'est rendu compte que tant que ce sont de jeunes enfants, les gens les trouvent inoffensifs, attendrissants. Mais c'est déjà arrivé que ces mêmes personnes tellement charmantes avec nous, ensuite sur Facebook, soient les premières à être racistes ou à publier des choses contre les migrants ou contre ceux qu'elles considèrent différents.
Cet affichage décomplexé du racisme et de la haine sont récents. L'association pointe la responsabilité de certains politiques, Matteo Salvini en tête. L'ancien ministre de l'Intérieur, chef du parti d'extrême droite La Lega, associe volontiers la délinquance et la criminalité à l'immigration. Le mécanisme de la peur fonctionne. Pourtant, quand les débarquements se sont multipliés sur les côtes italiennes il y a 5 ans, la première réaction des habitants a été l'accueil. Diego Moretti est responsable du projet Enfants en haute mer. Il cherche des familles temporaires aux mineurs arrivés seuls.
Sur une période de 3-4 ans, nous avons reçu plus de 20 000 disponibilités d'accueil, aussi bien des couples que des familles avec enfants et même beaucoup de célibataires. Le problème, c'était que dans leur imaginaire, un mineur, c'était un enfant de 0 à 6 ans, donc un enfant très jeune. Alors qu'au contraire, l'énorme majorité des mineurs non accompagnés sont des garçons adolescents. Beaucoup de familles se sont inscrites à nos cours de formation, puis quand elles comprenaient qu'il s'agissait d'accueillir des adolescents, elles retiraient leur candidature, alors qu'on insiste sur les bons côtés de ces jeunes.
La loro candidatura, nonostante il fatto che noi insomma sottolineassimo le caratteristiche positive che hanno questi ragazzi adolescenti.
Le cas de Naïla, ce bébé nigérian adopté par un couple italien, est en fait très rare. 95% des mineurs étrangers non accompagnés arrivés en Italie ont plus de 14 ans. La plupart sont des garçons de 16-17 ans. Eux aussi ont besoin d'être accompagnés, mais ils font peur, à tort. Diego Moretti explique pourquoi.
On
ne peut pas les comparer à la figure classique de l'adolescent italien. Lui, il vit peut-être un moment compliqué dans son développement. Il commence à défier l'autorité. Les adolescents étrangers, ils sont déjà grands. Ils ont un comportement d'adulte et un objectif clair, celui de réussir, d'avoir un futur meilleur. Donc ce sont des jeunes qui s'impliquent aussi bien dans leur scolarité que pour trouver un travail et aider leur famille d'origine.
Il faut beaucoup de pédagogie pour déconstruire l'image de l'ado migrant délinquant. La politique actuelle n'aide pas, elle préfère désigner un problème plutôt que de participer aux solutions. L'association pour laquelle Diego Moretti travaille a dû licencier 10 personnes, faute de moyens. Car depuis le passage au gouvernement de Matteo Salvini et son décret sécurité, celui qui empêche les ONG d'accéder aux ports, les aides publiques ont diminué d'un tiers. Les structures d'aide aux migrants touchaient avant 35 euros par jour et par personne aidée. Maintenant, c'est 23. Les mineurs étrangers se retrouvent plus souvent livrés à eux-mêmes ou aux mains de la mafia.
La une de Courrier International aujourd'hui, c'est avec Sacha Mitchell. Bonjour Sacha.
Bonjour Juliette.
Vous revenez sur cette macabre découverte au Royaume-Uni, les corps de 39 personnes dans un camion frigorifique. Un visa pour l'enfer pour The Economist, selon qui la découverte met en évidence les conséquences de la politique migratoire hostile pratiquée par les Britanniques.
Absolument. The Economist publie cette semaine un article intitulé « Le coût humain d'une politique hostile ». Ce que l'on sait, souligne le magazine, c'est qu'en renforçant la sécurité sur une route migratoire, c'est le cas actuellement entre Calais et Douvres par exemple, on a tendance à pousser les gens à en emprunter d'autres et donc à prendre plus de risques. Si les chiffres fiables sont rares, les spécialistes estiment qu'un grand nombre de clandestins entrent au Royaume-Uni munis de visas touristiques légitimes, puis qu'ils restent dans le pays. Beaucoup d'autres utilisent des faux papiers. Mais ceux qui traversent la Manche en bateau ou se cachent à l'arrière de camions sont souvent ceux qui peineraient à obtenir un visa. Comme l'explique Madeleine Sampson de l'Université d'Oxford, il est difficile d'atteindre le Royaume-Uni pour y demander l'asile et c'est une politique délibérée de la part du gouvernement. Par conséquent, les gens issus de pays où les demandeurs d'asile sont plus nombreux auront du mal à obtenir des visas touristique. Concrètement, et c'est le quotidien The Guardian qui nous l'explique, les gens qui fuient la torture, le viol et la mort ne peuvent pas demander asile au Royaume-Uni sans avoir atteint physiquement le pays, à l'exception de quelques programmes limités comme celui destiné aux réfugiés syriens. Et résultat, l'an dernier, le Royaume-Uni a accordé l'asile à 18 500 personnes.
Sacha, Courrier International nous emmène également cette semaine dans le Sud-Tirol séparatiste.
C'est le quotidien La Stampa qui nous emmène dans cette région turbulente rattachée à l'Italie depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Nous voici donc dans cette fameuse vallée Aurina où les rêves de sécession n'ont jamais faibli, décrit le journal de Turin. Dans ce coin du Sud-Tirol où l'on parle encore allemand et où l'on déplore que les médecins de Bolzano, capitale de la province, ne connaissent que l'italien, les vents séparatistes soufflent encore. Ils ont même redoublé d'intensité, effectivement Juliette, avec le projet de loi récent prévoyant de retirer du nom de la province autonome le terme italien de Haut-Adige pour ne garder que Sud-Tirol, avec l'espoir derrière que Vienne accorde bientôt la double nationalité aux ressortissants de cette province bilingue. Vous vous en doutez, lever bouclier, l'idée a finalement été abandonnée, mais les polémiques se poursuivent. Ici, on cohabite, témoigne une bibliothécaire de Brunico, ville du Sud-Tirol, car il y a des gens intelligents. Mais si l'on ravive les antagonismes, il ne faudrait pas que cela dégénère en une autre Bosnie.
Enfin, un homme en jupe entre au Parlement. C'est au Portugal, c'est assez saillant quand on regarde la photo qui accompagne l'article sur votre site internet. Mais ça fait débat au Portugal, bien sûr.
Absolument. Il s'appelle Rafael Esteves Martin et il a fait une sensation totale. La raison, vous venez de le rappeler, cet attaché parlementaire a pénétré dans l'enceinte vêtue d'une robe le jour de la rentrée des députés, 3 semaines après les élections législatives remportées, on le rappelle, par les socialistes. En fait, c'était tout simplement la première fois qu'un homme rentrait habillé ainsi dans les murs de l'Assemblée de la République portugaise. Désarçonnant pour la presse et le débat qu'il suscite a même figuré à la une du journal I ce mardi. Un débat auquel s'est invité la mairie socialiste de Lisbonne en publiant la photo d'une statue de Dom Afonso Henriques, premier roi du Portugal, dans sa tenue d'époque. Et avec ce message, des hommes en jupe, nous en avons, et depuis des temps immémoriaux. À l'intérieur, le journal I remonte le cours de l'histoire et rappelle qu'au temps de la Rome antique, quiconque portait un pantalon s'exposait à la peine de mort. De son côté, le journal Publico n'est pas convaincu et il fustige un comportement d'adolescent de l'attaché parlementaire qui ne vise qu'à faire parler. Interrogé, Rafael Esteves Martin s'est dit étonné du battage. Il explique qu'aujourd'hui, à l'université d'Oxford ou à Londres, où il a enseigné et vécu, la jupe masculine ne fait aucun débat.
Merci Sacha Mitchell de Courrier International, à retrouver sur internet ou en kiosque avec en une cette semaine ces mensonges qui nous gouvernent.
Merci Juliette.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Vendredi, on retrouve Vincent Théval. Bonjour Vincent, on commence le mois de novembre en Belgique avec River into Lake et ce titre The Book on Your Chest.
Depuis une vingtaine d'années, le multi-instrumentiste Boris Gronenberger a joué dans de nombreux groupes. Il a aussi longtemps accompagné Françoise Breu sur scène ou encore composé pour des spectacles de danse. Jusqu'à présent, il était à la tête du groupe VO avec qui il a publié 3 albums très remarqués, mais au moment d'imaginer la suite avec en tête des nouvelles sonorités, l'idée s'est imposée de changer de nom. C'est donc sous l'alias River into Lake que Boris Gronenberger publie ses nouvelles chansons. Et les nouvelles sonorités, ce sont celles des synthétiseurs analogiques qui se mélangent aux instruments acoustiques au fil de 9 morceaux, certains très longs et tortueux, d'autres plus courts comme The Book on Your Chest et ses belles harmonies vocales.
Let's chat a little about the book on your
The Book on Your Chest des Belges de River into Lake avec Vincent Teval. Accent d'Europe à la réalisation, Ludivine Amado. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.